Hier, dans Affaires Sensibles, nous vous proposions de réécouter l'histoire de Christian Ranucci, l'un des faits divers les plus marquants de l'après-guerre en France. Une histoire qui commence à Marseille par le meurtre de la petite Maria Dolores Rambla, 8 ans, enlevée au pied de son immeuble sous les yeux de son petit frère Jean-Baptiste, 6 ans. Dans ce premier épisode, l'accent était mis sur l'arrestation de Christian Ranucci, l'un des derniers condamnés à mort de notre pays. C'est en 1976 que, honteusement, caché derrière les murs de la prison des Baumettes, au petit matin, quand le bon peuple dort encore, que la guillotine a encore sévi, soit 5 ans avant l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand et l'abolition de la peine de mort. Tant mieux pour la France, trop tard pour Ranucci. Alors, point final de l'histoire? Non, loin de là. Car derrière cette affaire était tapie dans la douleur la famille Rambla. Le père de la petite victime, Pierre Rambla, un homme fou de douleur qui n'hésitera pas à embarquer son fils Jean-Baptiste dans son funeste combat. Comment grandir en effet lorsqu'on a le sentiment de ne pas avoir su protéger sa sœur? Comment expier et jusqu'où? Notre invitée aujourd'hui, Aurélie Joly, l'avocate de Jean-Baptiste Rambla, co-autrice avec son confrère Frédéric David, du livre intitulé « La malédiction du pullover rouge » qui vient de paraître aux éditions Max Milo. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère et réalisation Flora Bernard.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
L'exécution de Ranucci par la guillotine, avec un débat sur la peine de mort que beaucoup se découragent d'aborder, a, je peux vous le dire, ranimé les passions, très vivement. Qui pourrait ne pas pleurer une victime innocente? Qui pourrait, je parle de la petite fille bien sûr, qui pourrait ne pas être frappé dans son esprit par des crimes aussi atroces que celui pour lequel Ranucci a été exécuté? N'empêche que la peine de mort reste l'un des problèmes de société les plus importants pour un pays développé comme la France.
Juillet 1976, 4h13. En dépit de la demande de grâce déposée auprès du président Giscard d'Estaing par Maître Lombard, Christian Ranucci est guillotiné à la prison des Baumettes. Dans le pays, l'émotion est immense. D'autant que, 2 ans plus tard, l'un des meilleurs journalistes enquêteurs de France, Gilles Perrault, publie un livre intitulé « Le pullover rouge », dans lequel il développe la thèse selon laquelle l'enquête a été bâclée et qu'on a tué Ranucci alors que le doute subsistait. Le retentissement de cette contre-enquête est énorme. Il y est question de pression politique sur la police et la justice du pouvoir giscardien et dont se porte-flingue le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski. L'onde de choc, évidemment, n'épargne pas la famille de la victime, la famille Rambla, qui pour se protéger et grâce au soutien de la municipalité, quitte la cité Sainte-Agnès et déménage au 4e étage de la cité Menton, toujours à Marseille. La mère, Dolores, se réfugie dans le travail et la propreté, de façon obsessionnelle. Le père, Pierre, s'investit à fond dans le combat pour le maintien de la culpabilité de Ranucci, tout aussi obsessionnel. Pour cet homme, ravagé par la souffrance et qui ne parvient pas à faire le deuil de sa fille, le livre de Perrault, qui propulse Ranucci en martyr, le rend fou. Oh, il entend bien cette petite musique qui monte. Ranucci, exécuté à tort, serait une victime, la victime de toute cette affaire. Et les Rambla, eux, seraient ses bourreaux, en quelque sorte. Insupportable renversement des valeurs pour cet homme d'origine espagnole qui a lutté toute sa vie pour être reconnu comme un homme respectable. Pour comprendre son combat, il faut replonger dans son enfance et se souvenir qu'il a lui aussi, à l'âge de 7 ans, soit à l'âge de Marie Dolores et Jean-Baptiste lors du drame, été marqué par une mort, celle de son père. Dévastation familiale qui lui vaut alors d'être placé en apprentissage auprès d'un maître boulanger en qui il place toute son affection d'enfant endeuillé. Jusqu'à son retour du service militaire où il découvre qu'il a été remplacé. Alors, il se sent nié, humilié. Cet épisode qui provoque son départ pour Marseille le blesse profondément. Ainsi, lorsque des années plus tard, le destin lui prend sa fille, puis érige Ranucci en victime, Pierre Rambla bascule dans la folie. intarissable. Il écrira même, avec l'aide d'Henri Michel du journal Minute, un livre intitulé « Le Cirque Rouge », dans lequel il qualifiera la campagne de réhabilitation de Ranucci d'agression permanente, de persécution. Je reprends ces mots. Et puis, en 1979, nouveau coup de boutoir, quand sort le film de Michel Drac, Le Pullover Rouge, qui s'inspire largement du livre de Gilles Perreault jusqu'à en reprendre le titre. Pour Pierre Rambla, c'en est trop. Alors, il s'invite sur les plateaux TV, comme ici sur Antenne de Midi.
Je ne comprends pas le pourquoi, et maintenant, c'est pas l'abolition de la peine de mort. Ça, je suis pour rien, ça c'est pas mon affaire à moi.
D'accord.
La única affaire que c'est à moi, que j'ai une famille, j'ai trois enfants, ma femme et moi, nous sommes cinq, que j'ai un enfant qui est traumatisé à 100% depuis le Pullover Rouge, et que moi je ne permettrai pas que Drac et Pierrot se remplissent la poche du crime de ma petite Maria Dolores.
Alors il tente de faire interdire le film. Il se rend à la mairie de Marseille et menace Gaston Defferre de mettre une bombe dans chaque cinéma qui programmera le Pullover Rouge. Mais Defferre ne cède pas. En revanche, les maires de Marignane, Carrie Lerouet, Aix et Toulon, eux, prennent peur. Et le livre de Perreault devient une passion nationale, un best-seller suivi par l'apparition d'autres livres. Les pour, les contre, tous s'y mettent, relayés par des dizaines d'articles de presse, d'émissions de télé, de manifestations à l'appel. Un climat hystérisant, entretenu par trois demandes de révision du procès, toutes rejetées. Mais qui se soucie de la prolifération de ces images et ce qu'elles peuvent provoquer dans l'esprit de Jean-Baptiste ? Le petit frère de Maria Dolores, seul témoin de l'enlèvement de sa sœur. Ah, si seulement il avait pu reconnaître Ranucci. Cet enfer médiatique n'aurait pas eu lieu. C'est ainsi que Jean-Baptiste, 6 ans, à l'époque des faits, se voit contraint de grandir dans une ambiance tendue, délétère, et doit accepter la colère quotidienne de son père, sa spirale de haine et son désir infini de vengeance, autant de passions tristes, tellement douloureuses. Dès lors, rien ne lui sera épargné, comme en témoigne le journaliste Roger Ardois.
Je me souviens que Gilles Perreault était à la Foire du Livre de Marseille. Rambla est arrivé, il a foutu tous ses livres par terre et a ravagé son stand. Un autre jour, il nous a convoqués devant le palais de justice pour un auto-da-fé. Il a fait une pile de livres, l'a arrosé d'essence et y a mis le feu. Et devant le bûcher, il a aligné sa femme et ses 3 enfants.
Bientôt, entre le père et le fils, c'est une histoire d'emprise et d'embrigadement. Combien de fois Pierre lui en a-t-il parlé de cette affaire ? Et combien de fois l'a-t-il emmené avec lui à des meetings pro-peine de mort, organisés par le Front National ? Alors, Jean-Baptiste, coupable de ne pas avoir reconnu Ranucci, expie et devient le bras armé de son père pour se faire pardonner. D'autant que, au quotidien, la famille n'est plus jamais tranquille. Désormais à cause d'eux et de Jean-Baptiste, aux yeux d'une partie de l'opinion publique, un innocent est mort. Une vague d'indignation submerge la France abolitionniste et les Rambla doivent changer à 5 reprises de numéro de téléphone pour échapper aux coups de fil qui les traitent d'assassins, sans compter les lettres anonymes. Le petit garçon en perd le sommeil, assailli de maux de ventre, de crises d'asthme. On lui donne des tranquillisants et on passe sous silence le fait qu'il ne parvienne plus à monter en voiture sans paniquer, par exemple. Cet enfant est si taciturne, si compliqué, comme en témoigne le commissaire divisionnaire Jean-Louis Vincent, dans l'émission Une histoire particulière sur France Culture.
On voit mal comment cet enfant, qui a grandi avec le souvenir de sa sœur, entretenu en plus de manière probablement excessive par son père, qui lui ne cessait d'en parler, il y a une photo qui est connue où on les voit dans leur salle à manger, contre le mur, vous avez un grand portrait de Maria Dolores, la petite, et vous avez son couvert qui est mis à table, qui évidemment ne sert à rien, mais qui est là, et toute la famille autour. Bon, je veux dire, le père a fait en sorte que cette affaire ne disparaisse jamais de leur environnement familial. Cet enfant, il a donc été enlevé là-dedans. On dit qu'il a culpabilisé aussi un peu parce qu'il n'a rien empêché, mais que pouvait-il empêcher à son âge ? C'est pas, il ne pouvait rien faire. Et donc, effectivement, tout ça a certainement contribué à son déséquilibre. C'est un enfant qui a mal grandi, mais je pense, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, je pense que l'affaire Ranucci y est pour beaucoup.
Puis, peu à peu, c'est le couple Rambla, le couple parental, qui se fissure. Dolores ne supporte plus la folie de son mari. Alors elle s'isole avec ses jumeaux et laisse Jean-Baptiste avec son père. Un soir, une dispute éclate, plus forte que les précédentes. Jean-Baptiste voit son père sortir un couteau et menacer sa mère. Il s'interpose. De toute façon, rien ne tourne plus rond autour de lui. Pas même les copains qui le stigmatisent, l'appelant le frère de la petite fille. Même l'école n'est d'aucun secours, au contraire même. Arrivé en classe de quatrième, voilà qu'il ouvre son livre de français pour un exercice. Et que découvre-t-il, page 87, un extrait du Pullover rouge. Un passage qui raconte la montée à l'échafaud, illustré d'une photo de Ranucci, bien sûr, les mains menottées. C'en est trop. Jean-Baptiste refuse de se soumettre à l'exercice et jette le livre à terre. L'institution scolaire ne trouve pas mieux que de le renvoyer 10 jours dans le cadre d'un conseil de discipline. Comment dès lors se construire ? Jean-Baptiste vient d'atteindre l'adolescence, une période déjà compliquée, même pour ceux qui vont bien, alors pour lui. D'ailleurs, il multiplie les fugues, les larcins, et commence à fumer du hash, histoire notamment de retrouver le sommeil. À la fin du collège, n'étant doué qu'en mathématiques, Jean-Baptiste suit un cursus de comptabilité, puis part pour l'armée de l'air dans l'unité stratégique du plateau d'Albion. Et il s'y plaît. Bien. Mais sait-il seulement que durant son absence, son père a investi sa chambre, son lit et diffuse son mal-être à son fils, jusque dans son sommeil. Puis Jean-Baptiste revient à Marseille. Travail, oui, mais de façon tellement erratique. En 91, lors d'un match au Vélodrome, il rencontre Patricia, qui devient sa compagne, en dépit de l'immaturité affective et des absences répétées du jeune homme. 3 ans plus tard, ils ont même un fils, Thomas. Mais ce rôle de père, Jean-Baptiste ne parvient pas à l'assumer. Patricia s'inquiète. Que faire face à un homme qui, chaque soir, regarde la photo de la tombe de sa petite sœur ? Commence alors une vraie période de dérive. Jean-Baptiste perd son emploi, trompe Patricia, et à l'âge de 33 ans, retourne vivre chez ses parents. Or, Pierre Rambla ne supporte pas de voir son fils oisif. Il le présente alors à Christian et Corinne, les époux Belde, qui gèrent une société de logistique pour des tournages. La société se nomme Crisco. Chris pour Christian et Co pour Corinne. Et le couple a besoin de bras, payé aux blagues bien sûr. Jean-Baptiste accepte. C'est ainsi qu'on le retrouve sur des tournages, comme la série télé Avocat et Associés, ou encore sur ce film de Thomas Vincent au nom prémonitoire « Je suis un assassin ». Tour à tour, il est chauffeur de camion, monteur de tente, préposé à la plonge, et il s'y sent bien. Oui, c'est pour lui l'occasion de voir du pays, de respirer, de côtoyer des vedettes, et d'avoir les moyens de s'acheter de la cocaïne en plus du haschich, drogue dont les effets désinhibiteurs le rendent heureux, mais surtout addict. Comme en témoigne Julien de Treize, rencontré lors des tournages.
Ce dont je me souviens, c'est qu'il avait un problème avec le haschich, qu'il fumait comme des cigarettes. Et puis, il aimait trop le pognon. Il me parlait toujours de combines pour grappiller.
Parallèlement, Jean-Baptiste développe une relation intime avec Corinne Belde, sa patronne. Cette femme, joyeuse, sûre d'elle, est un peu plus âgée que lui. Et, coïncidence troublante, elle a fréquenté la même école que Maria Dolores. Elle était même présente lors de ses obsèques, à l'instar des autres enfants du quartier d'ailleurs. Il y avait tellement de monde. Pourtant, le mardi 13 juillet 2004, leur complicité bascule. Ce jour-là, Jean-Baptiste lui propose de passer boire un verre chez lui, dans son nouvel appartement. Corinne accepte, puis tente de s'approcher de lui, mais lui préfère parler. Enfin, du moins revenir sur cette demande, tellement de fois émise, être réellement embauché, ne plus travailler au noir, être reconnu par la qualité de son travail et obtenir un CDI. Mais non seulement Corizo refuse, mais lui rit au nez. Quoi, l'embaucher? Non, ça coûterait beaucoup trop cher. La déception est immense pour Jean-Baptiste. Il se sent floué et perçoit le même sentiment d'injustice que celui subi par son père en son temps. Alors, il saisit Corinne à la gorge, dans le sens propre du terme, et serre de plus en plus fort, puis lui tape la tête contre le plancher jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ensuite, il la baillonne avec du ruban adhésif, ligote ses pieds, ses mains, et lui enfile un sac en plastique sur la tête, sans même s'assurer de la savoir morte ou vivante. Puis, tentant d'effacer son geste, il la glisse dans la baignoire avant d'y mettre le feu. Mais la fumée envahit la pièce sans que le corps ne disparaisse. Jean-Baptiste décide alors de transvaser le corps dans un sac de voyage et envoie un SMS à Adrien, le fils de Corinne, pour l'informer d'une escapade de sa mère à Ibiza. Puis un second texto, 2 heures plus tard, précisant qu'elle est bien arrivée. Enfin, il rejoint le domicile de Patricia, son ancienne compagne, au 11 à impasse du Cas. Lesté du sac contenant le corps de Corinne, il lui explique que c'est un ami qui le lui a confié, qu'il contient des produits dangereux, qu'il enfouira plus tard sous le plancher quand il aura le temps. Mais bientôt, Patricia se plaint de l'odeur qui s'en dégage. Et Jean-Baptiste la rassure. « Oh, c'est rien, un chat mort. » Étonnamment, il n'enterre pas le sac. Enfin, comment supporte-t-il l'idée de vivre si près de ce corps supplicié, d'autant que son fils, Thomas, joue innocemment à quelques pas, là, à côté? La famille de Corinne la cherche, bien sûr. À Marseille, en Espagne, en vain. Disparaître ainsi, non. Non, c'est pas son genre. Alors, Christian confie son désarroi à Jean-Baptiste, qui le console. Puis vient ce jour, 7 mois plus tard, où Patricia se rend dans le cabanon pour récupérer la trottinette de Thomas. Et là, l'odeur est terrible. Elle se décide à ouvrir le sac et découvre les restes de Corinne. Affolée, elle appelle la police. La BAC cueille Jean-Baptiste dès son retour du travail et les journalistes accourent.
L'horreur au fond d'une impasse. C'est ici qu'une femme a découvert ce que son ex-concubin lui cachait en prétextant avoir tué des chats. Dans un sac en plastique au fond du cabanon, le corps en état de décomposition de Corinne Bedel, 42 ans, disparue depuis juillet dernier. L'odeur pestilentielle qui se dégageait du jardin n'a même pas alerté les voisins.
Pourtant les jardins sont l'un à côté de l'autre. C'était tout à fait au fond de la cave, donc... On n'a rien senti du tout. Hein. C'est traumatisant. Hein. Surtout que c'est, le petit était gardé juste dans la maison d'à côté par à Nounou et à Patricia.
Jean-Baptiste est placé en garde à vue, puis au regard de la nature des faits, placé en détention provisoire. 30 ans après la mort de sa sœur, le petit Jean est devenu un tueur. Comment le comprendre? Ses explications sont si vagues. En revanche, il se montre prolixe quant à son parcours de vie, sa sœur, Gilles Perrault, sa famille, en somme, le voilà qui s'érige en victime. C'est ainsi que le 16 février 2005, François titre « Le spectre de l'affaire Ranucci ressurgit ». À la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, la même que celle où fut jugé Christian Ranucci 30 ans plus tôt, le neurologue Serge Bornstein explique qu'on peut voir dans ce meurtre le relâchement de la pression intériorisée. Devant lui, Pierre Rambla, assis au premier rang du prétoire, ne le lâche pas du regard. Mais cette fois, la presse locale éprouve une certaine compassion pour les Rambla, aux grandes dames de la famille Corinne. « On ne parle pas assez de ma sœur », déplore Edith Beld. « Enfin, c'est elle qui a disparu. Ce qui s'est passé il y a 30 ans à cause de Ranucci n'a rien à voir. » « De toute façon, ajoute-t-elle, quelle que soit la peine de prison qui sera prononcée à l'encontre de M. Rambla, ça ne sera jamais assez. » Saisissant télescopage, vertigineux jeu de miroir, de mémoire judiciaire, on n'avait jamais vu ça. Alors, comme 30 ans auparavant, le débat fait rage. Ici, l'avocat Jean-Michel Pesanti évoque le passé traumatique de Jean-Baptiste.
Comment voulez-vous appréhender la personnalité, l'évolution de Jean-Baptiste Rambla si vous faites l'économie du drame qu'il a vécu depuis l'âge de 6 ans et demi? C'est pas possible.
Dans son réquisitoire, l'avocat général Roland Mailly réclame 20 ans de prison. Jean-Baptiste s'en sort avec 18. Direction les Baumettes, là où Christian Ranucci fut guillotiné. Étonnamment, Jean-Baptiste Rambla se révèle détenu modèle. Il travaille à la régie bois où il donne satisfaction à son employeur, assume le remboursement de la partie civile par des versements de 50 euros par mois, puis passe le CAP de chauffagiste avec succès et déclare vouloir se spécialiser dans les énergies renouvelables. Bien, mais côté mental, où en est-il? Qu'en disent les experts qui régulièrement l'entendent? En août 2013, il note:
le détenu n'apparaît que peu susceptible de présenter une dangerosité en milieu libre. Le risque de récidive apparaît peu probable.
Dont acte. Le juge d'application des peines lui accorde sa demande de libération conditionnelle à compter du 23 février 2016. Un nouvel avenir s'offre à lui. Au même moment, coup de chance. Une société d'insertion spécialisée dans le recyclage de matériel informatique, implantée près de Toulouse, l'embauche. La réadaptation sociale est enclenchée, en étroite collaboration avec le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et puis, sa petite sœur Karine est là, qui l'encourage, lui vouant une confiance absolue. Enfin, cette libération lui permet de retrouver Thomas, son fils, désormais âgé de 8 ans, l'âge exact qu'avait Maria Dolores au moment de sa mort, rappelons-le. Tout va mieux alors? La malédiction Ranucci peut enfin être enterrée? Non. Car le poison de la colère agit toujours au plus profond de son âme. À l'instar de ce serment prêté devant son père en 2013, sur son lit de mort, lorsqu'il lui promet de reprendre le combat. Un pacte qui scelle un funeste héritage, comme peut l'être tout amour, toxique. Certes, Jean-Baptiste est sorti de prison. Il a un emploi. Mais il n'a toujours pas la recette du bonheur. Alors, il traîne son mal-être au PMU, fréquente des sites de rencontres, jusque-là tout va bien, mais replonge dans les drogues, y compris les dures, comme la cocaïne. Le 21 juillet 2017, au réveil, il se sent mal, oppressé. Il croit se souvenir avoir été agressé la veille au soir, persécuté même. Mais par qui? Un homme, oui, accompagné d'une femme noire. Vérité ou délire? Pourquoi ne pas avoir porté plainte? Je n'avais qu'une égratignure, expliquera-t-il plus tard. Il n'empêche, Jean-Baptiste se sent mal. Alors il se rend chez un ami, à l'autre bout de la ville, afin de trouver du réconfort. Mais il trouve porte close. Son malaise grandit. Et au hasard de son errance, vers midi et demi, il s'installe dans un square, le jardin d'Ambart, et se fait une ligne de cocaïne. Là, au 35 place des Tiercerettes, une jeune femme de 21 ans est rentrée de sa matinée de travail et discute au téléphone sur son balcon. L'entend-il parler de son job de femme de ménage, comme l'était sa mère, Dolores, lorsqu'il était enfant ? À nouveau, il regarde la jeune femme. Elle a l'air heureux. Mais il croit reconnaître en elle la femme qu'il a agressée la veille. Oui, il a même l'impression qu'elle le regarde, elle aussi. Qu'elle l'épie, qu'elle le juge, peut-être. Alors une énorme colère monte en lui, et il décide de passer à l'acte. Dans sa poche, un taser et la cocaïne achetée la veille. Il se lève, entre dans la résidence, monte au 4e étage, frappe à une première porte, en vain, puis à une deuxième. Cynthia Libimbu, la fille du balcon, lui ouvre. Et là, il se jette sur elle et lui assène des coups violents, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Mais soudain, elle se réveille, la mâchoire cassée, et tente de s'échapper. Alors il la rattrape et l'achève. L'autopsie relèvera 8 plaies, dont certaines très profondes dans la région latéro-cervicale de 10, 14 et 16 centimètres. Visiblement, Jean-Baptiste Ramblas s'est acharné sur elle avec son cutter au point de parvenir quasiment à la décapiter. Puis il tente de maquiller son crime en cambriolage qui aurait mal tourné, jette son cutter par la fenêtre et va prendre une douche. Mais il laisse son ADN partout. Sur une boucle d'oreille, sur la poignée de la porte, sur le pommeau de la douche. Ensuite, après avoir semé tous ses indices, il rentre chez lui et prend soin d'avancer de 2 jours sa date de vacances dans le Var, auprès de sa sœur Karine, histoire de prendre du bon temps. Il s'en doute, avant le retour à la casse-prison. Le 27 juillet, en effet, inquiet de l'absence de sa fille, le père de Cynthia Libimbu appelle les pompiers qui enfoncent la porte de l'appartement et qui découvrent la jeune fille nue dans une mare de sang. Un véritable carnage. Le relevé d'ADN match, c'est bien celui de Jean-Baptiste Ramblas. Le 9 août, il est interpellé. Tout d'abord, il nie. Puis, à la 4e déposition, il craque et déclare « Je me sens soulagé de vous avoir dit la vérité. Mais je ne sais pas expliquer mon geste. Je sais que je suis coupable. Mais au fond de moi, je ne me sens pas responsable. » Interrogée la veille du procès, la mère de la victime s'insurge contre le laxisme réel ou supposé de la justice.
Tout ça là, c'est la faute des juges, ou madame les juges, ou messieurs les juges. C'est et il a donné la liberté provisoire. C'est si et il a donné pas la liberté provisoire, ma fille, elle ne sait pas mourir.
Le 29 juillet 2019, le journal Libération s'interroge par un titre de circonstance. Le crime se lègue-t-il ? Car devant tous ceux qui l'interrogent sur ses actes, Jean-Baptiste n'exprime aucune compassion pour les jeunes femmes tuées. Non, il préfère parler de sa sœur et du type en costume gris, de sa haine aussi. « Je tue pour tous les gens contre qui j'ai de la haine, Ranucci, les avocats, Perrault. » Au procès, les psychiatres évoquent une décharge explosive, alors que pour le docteur Zaguri, c'est la cocaïne qui lui a fait perdre le contrôle. La psychologue pénitentiaire Sabine Cariou revient, elle, sur la symbolique qui le persécute depuis son enfance. Elle explique que le meurtre est à la fois catastrophe et réponse au problème d'être soi. Bien. Mais lorsqu'elle demande à Jean-Baptiste pourquoi il ne s'est pas fait aider pour soulager son malaise, il répond « Ce n'est pas un psychologue qui va régler le problème de Ranucci. » Silence pesant dans la salle d'audience. Lui accordant tout de même le crédit du traumatisme subi enfant, l'avocat général David Sena s'exclame.
Vous vous êtes plaint d'une persécution des médias, certes, mais 46 ans après les faits, qui sinon vous êtes le meilleur agent de cette médiatisation ? Le fait est que vous avez besoin de cette médiatisation que vous n'avez pas trouvée ailleurs. Vous vous plaignez d'intellectuels, d'avocats courageux qui ont fait évoluer la justice et fait abolir la peine de mort. Mais en cet instant, monsieur Ramblas, vous devriez plutôt les remercier, car vous êtes un meurtrier en puissance. Vous n'avez pas de limite.
« Maître Simon Cohen, l'avocat des proches de la victime, va plus loin et dit « Cynthia Lebimbu a été trucidée. Elle s'est vidée de son sang. Cette jeune femme a été tuée par le cou et par la lame d'un cutter oblique comme la lame d'une guillotine. Comme quoi les mots aussi sont guillotines. Jeudi 17 décembre 2020, cour d'assises de Toulouse, le verdict est prononcé perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Jean-Baptiste voulait faire appel. Finalement, il y a renoncé. Alors, quelle place accorder au passé de ceux que l'on juge? Cette question hante chaque procès d'assises. Sans doute ici, faut-il reprendre les mots de Robert Badinter qui rappelait « Il faut toujours regarder l'enfance d'un criminel pour savoir qu'un jour, il a été un enfant innocent. Alors, condamnez-le, soyez dur, soyez ferme, mais au moins, dans le secret de votre cœur, considérez-le non pas comme un monstre, mais comme un homme. Car enfin, qui juge-t-on lorsqu'on est face à Jean-Baptiste Rambla? Un mystificateur qui ne cherche qu'à se délester de ses responsabilités? Ou un homme emmuré dans la douleur provoquée par le meurtre de sa sœur et le combat de son père depuis son enfance? Autrement dit, bourreau ou victime? Sans doute les deux. Un homme qui aura vécu sa vie liée, comme enchaîné à la justice, au point de ne plus savoir vivre sans elle, être hanté par elle.
Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Jean-Baptiste Rambla, dont nous allons parler avec notre invité Aurélie Joly. Bonjour.
Bonjour, monsieur Drouel.
L'avocate de Jean-Baptiste Rambla, hein, co-autrice avec votre confrère Frédéric David, qui lui aussi a défendu Rambla, donc co-autrice du livre intitulé « La malédiction du pullover rouge ». Alors on comprend vraiment le titre, d'abord quand on lit le livre et quand on se penche sur le récit, on comprend bien de quoi il s'agit. C'est une malédiction du pullover rouge, et qui vient de paraître aux éditions Max Midlow. Il a bien renoncé à son appel, dites-moi. L'appel de sa condamnation, hein, la semaine dernière, c'est ça.
Il s'est désisté il y a à peu près 15 jours. 15 de jours. Son appel.
D'accord, mais pourquoi ?
Je crois que Jean-Baptiste a enfin pris la mesure et a pu, d'une certaine façon, cheminer sur son parcours. Et j'ai l'impression qu'il a pu, à force de réflexion, et je crois aussi que le documentaire sur Canal+, mais également le livre que l'on a pu écrire et qui lui a beaucoup plu, je crois que ça a pu lui permettre enfin d'expliquer, que ce soit à travers lui, ses paroles à la cour d'assises, mais également à travers nous, ses avocats, de lui rendre finalement un petit peu justice, dans la mesure où on lui redonne une certaine parole en expliquant à nouveau son histoire.
Alors, ce qui est absolument troublant, saisissant, ce qui interpelle, c'est que les gens qui connaissent bien l'affaire Ranouchi se souviennent donc de ce gamin, hein, de 6 ans, qui n'a pas reconnu l'agresseur, qui était pourtant, je crois qu'il connaissait bien toutes les petites voitures et donc les modèles de voitures, parce qu'il s'intéressait aux voitures. Donc, sa vie, son déterminisme est terrible. Hein. Quelle était votre première impression lorsque vous l'avez rencontré ?
Alors la première impression, quand on a rencontré Jean-Baptiste, on s'est vraiment posé la question de savoir s'il se cachait ou non derrière son histoire, parce qu'il en parlait tout le temps et à chaque sujet que l'on pouvait traiter avec lui, il déviait finalement sur ce passé, au point où véritablement on s'est interrogé et on s'est demandé si... d'une certaine façon, cette histoire, son histoire, ne lui permettait pas de justifier ses actes atroces.
Est-ce que c'est pas le contraire ? Si j'ose dire.
Alors finalement, on a pu comprendre, et notamment au travers des expertises, hein, que c'est véritablement un deuil pathologique. Donc
mais
on
oui.
s'en doutait d'une certaine façon, mais c'est vrai qu'on avait besoin de la confirmation, que ce soit de l'expert psychologue ou du docteur Zaguri, expert psychiatre.
Mais qu'est-ce qu'il vous renvoyait, ne serait-ce que physiquement, dans son regard, dans son attitude ? Il renvoyait toute cette douleur, j'imagine ?
Oui, bien sûr. Mmh. Il renvoie cette peine, et c'est un homme qui, dès lors qu'on a pu le rencontrer, parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup interrogé sur son passé. C'est un homme qui est affaibli, qui peut se mettre d'un coup à étouffer de chagrin au souvenir de certains épisodes de sa vie. Donc que ce soit concernant Marie-Dolorès, évidemment, mais également des épisodes de vie avec ses parents.
Alors on a tendance à, peut-être en vue de loin, mais avec beaucoup de prudence, à dire que son père, fou de douleur hein, d'avoir perdu sa fille, a été pour beaucoup dans la dérive de son fils. On n'est surtout pas là pour juger Monsieur Rambla, Pierre Rambla, enfin, qu'en pensez-vous ? Ce lien évidemment est fondamental dans la dérive du gamin et ensuite du jeune homme et de l'homme, Jean-Baptiste.
Oui, tout à fait. Mais il lui a transmis d'une certaine façon ce funeste, on va dire, héritage, ce funeste combat. Et Jean-Baptiste a pu nous raconter que dès lors que son père se trouvait sur son lit de mort, et alors que Jean-Baptiste était incarcéré dans le cadre de la première peine qu'il effectuait, il lui a demandé de reprendre, entre guillemets, le flambeau et ce combat. Donc on se dit que ce père a perdu à cause de la douleur, évidemment, mais tout sens des réalités.
Alors,
et bien sûr qu'il a une certaine, comment dire, c'était un personnage qui a vraiment construit la personnalité de Jean-Baptiste, qui a toujours été dans l'ombre de son père, qui l'a amené, que ce soit chez leurs avocats ou dans ses différents combats. Et on a l'impression qu'au regard de la culpabilité que Jean-Baptiste pouvait ressentir, comme si toute sa vie il avait appris à se taire et à accepter le rôle que lui donnait ce père.
Alors on est tenté là pour le coup, sans réserve, d'essayer de comprendre les responsabilités. Alors, il y a la responsabilité du crime, évidemment, de Jean-Baptiste Rambla, ça c'est un prérequis, cherchez le mot, c'est un prérequis. À partir de là, on peut chercher les responsabilités de la société autour de la dérive d'un, d'un jeune homme. Il y a la politique d'abord. Les partisans de la peine de mort ont exploité cette affaire Ranucci, et par ricochet, c'est retombé aussi sur le jeune Rambla et sur la famille Rambla, qui s'est senti soutenu politiquement, et ça n'aura pas rendu service en fait.
Non, bien sûr, mais c'est déjà toute une opinion publique. Hein. On se rappelle le climat dans lequel avait été condamné Christian Ranucci, où l'opinion publique réclamait véritablement la tête de Christian Ranucci. Et d'un coup, on voit qu'elle est capable de se retourner contre cette famille dès lors que le livre de Gilles Perrault sort, et où finalement c'est cette famille qui va devenir le bourreau et qui aurait été condamné, celui que l'on considérait comme étant un innocent. Donc ils ont vraiment été des victimes collatérales de ce combat, bien sûr, qui était nécessaire pour l'abolition de la peine de mort.
Et les services sociaux n'ont pas été alertés, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Mais si on se replace un petit peu dans le contexte de ces années 70, on se dit qu'évidemment, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, de cellules psychologiques. Hein. Ce petit garçon a dû s'exprimer à différentes reprises, que ce soit auprès des journalistes, auprès des officiers de police judiciaire de l'époque. Mais évidemment, il n'y avait pas de cellules psychologiques. Je crois aussi, donc bien sûr, qu'il y a cette défaillance de la part des institutions, mais également cette famille aussi, qui je crois, était trop endeuillée et qui n'avait peut-être pas aussi les outils pour permettre à Jean-Baptiste d'expier finalement toute cette tristesse et toute cette colère.
Effectivement, difficile d'en vouloir à la famille, tant la douleur était terrible pour cette famille-là, la famille Rambla. En revanche, là on peut juger, l'école, ce qu'on a raconté là dans le récit, ce fait terrible, il est en quatrième, il est en cours de français, il ouvre le livre de français, et il y a un texte sur Ranucci qui monte à l'échafaud. Mais enfin, le prof qui a fait ça, il n'a pas pensé une minute, et la direction de l'école, et tout le système éducatif, là ça paraît quand même assez révoltant ça.
Ah oui, absolument. Et puis d'autant que, je pense que vous vous souvenez de cet épisode où justement Jean-Baptiste, il jette ce livre au sol, et c'est lui qui est renvoyé de l'école pendant une semaine. Donc on se dit, c'est une double peine, voire triple peine pour ce jeune garçon qui est déjà à cet âge-là, qui n'est pas protégé, qui est incompris.
Est-ce que le corps enseignant a été convoqué comme témoin au procès pour s'expliquer ?
Non, en aucun cas.
C'était intéressant pourtant. Non.
Est-ce que ça aurait été intéressant d'avoir, est-ce que du coup il y a un recul qui est pris de la part du corps enseignant quelques années après? Est-ce que c'est possible pour lui de faire finalement ce travail, de se dire peut-être qu'il y a eu des défaillances? Je crois que c'est toujours un petit peu difficile de se placer face au miroir et de réaliser.
Aurélie Jolie, pardon, on se retrouve, ne quittez pas, surtout, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Wasted Love, Rover. Holding on to faded stories, I made my way to pain. Sorry's a wasted love, honey, a wasted love. I heard you say the things were falling in. Maybe all we need was talking. Wasted love, all wasted love. Aurélie Joly, on va écouter les paroles de l'un de vos confrères, Simon Cohen, l'avocat des parties civiles durant le procès pour le meurtre de Cynthia Libimbou, hein, la fille au balcon, extrait du documentaire Une histoire particulière sur France Culture.
Comment juger un garçon qui aujourd'hui a 41 ans, qui est en semi-liberté dans sa tête depuis l'âge de 6 ans et demi, c'est-à-dire depuis l'âge où il a été le témoin de l'enlèvement de sa sœur, depuis l'âge où, en plus de sa douleur de petit frère qui n'a pas su protéger sa sœur et la culpabilité qui va avec, est devenu quelqu'un qui, par ses hésitations d'enfant devant les enquêteurs, a fait le témoignage qui est la clé de voûte de tous les discours révisionnistes sur la culpabilité de Ranucci.
En semi-liberté dans sa tête depuis le drame, la formule est belle, elle semble juste, hein ?
Oui, tout à fait, elle semble juste, et il avait pu effectivement nous dire, alors d'autres termes, mais nous expliquer que d'apparence il était normal et que qu'à l'intérieur il se sentait gangréné par la haine.
Alors comment réagit...
Ce sont des mots très forts.
Oui, bien sûr, mais comment réagissent les familles de victimes de Rambla, parce que c'est... Pour elle, ça va être difficile à entendre tout ce qui apparaît comme des circonstances atténuantes, finalement, de ces garçons frappés d'une double, voire triple peine. Enfin, pour les familles victimes, est-ce qu'on peut entendre ça ? Est-ce qu'elles peuvent entendre ça ?
Non, je crois que le chagrin est trop fort pour qu'elles entendent ces éléments d'explication, ce qui est évident, mais surtout... C'est vrai qu'au travers des deux meurtres de Jean-Baptiste, enfin à chaque fois, alors le premier, que ce soit concernant Madame Corinne Bédel ou il y a un meurtre, mais également c'est toute la suite aussi qui interroge véritablement d'envoyer des messages à son fils, à Adrien. Derrière, on cache un sac dans un cabanon pendant plusieurs mois. De la même façon, donc il y a une sorte de parallèle avec le meurtre de Cynthia Lunambu où il essaie de maquiller la scène en cambriolage. Et c'est vrai que je crois qu'au-delà des actes qui sont déjà abominables et inaudibles, évidemment, pour la famille, ce sont aussi toutes les suites qui interpellent. Et je crois qu'elles ne permettent pas, évidemment, à ces familles de se mettre à la place de cet homme.
Alors, quelque chose est étonnant dans l'affaire de Jean-Baptiste Rambla. Il ne s'en prend pas aux personnes que dans son esprit il accuse, c'est-à-dire Gilles Perrault ou Michel Drac. Il s'en plaint sans cesse. Et il s'attaque à des femmes, et sans aucune pulsion sexuelle. Il y a une traduction de cela ?
Alors, on a pu en discuter avec les experts qui n'ont pas creusé sur cette piste, parce que c'est vrai qu'on s'était toujours interrogé, et puis notamment il y a quand même un parallèle entre ces deux femmes qui sont quand même très très typées. Donc on a essayé d'en savoir un petit peu plus, et malheureusement il n'y a absolument aucune explication qui ressort des expertises, ni d'ailleurs de Jean-Baptiste lui-même.
Il n'a pas été question, de la part des experts, de deux notions, passage à l'acte et recours au passage à l'acte.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il a été question de ces deux notions. Donc nous, on a essayé d'expliquer le rouage d'une part, et surtout dans le livre du passage à l'acte en lui-même, et notamment donc en se servant de la référence de Cynthia Fleury sur la question du ressentiment qu'elle développe dans Sigil amer, et de ce fruit amer que l'on mâche, et s'il n'est pas contrer, mais jusqu'où en fait il peut aller, et notamment donc au travers de ce passage à l'acte pour Jean-Baptiste, et le recours en lui-même, donc au passage à l'acte, à quel point, d'une certaine façon, et là je parle vraiment au niveau de son psychisme, ce qu'il peut constituer pour cet homme.
Peut-on comprendre qu'il tue finalement, puisque sa deuxième victime, il ne la connaît même pas. Est-ce qu'il tue la victime de son enfance pour se dégager de sa propre histoire ? Est-ce qu'il tue Ranucci ? Quelle est donc la nature de ce transfert, s'il y a un transfert ?
Alors, un transfert, et là, ce sera uniquement mon interprétation, mm-hmm. mais on a l'impression, évidemment, qu'il y a un transfert, et comme il avait pu l'exprimer lui-même, au travers, et surtout de Cynthia, de sa dernière victime, il expliquait voir tous c'est tous ses détracteurs et notamment Gilles Perrault. Donc bien sûr, il y a cette première interprétation, mais également on a pu se demander s'il n'essayait pas de se tuer lui-même et de tuer cet enfant, en fait, parce qu'on avait posé la question justement au docteur Zaguri de savoir si Jean-Baptiste était encore enfermé dans son psychisme d'enfant de 6 ans. Et c'est cet enfant qui n'a pas été sécurisé, qui n'a pas été protégé, qui a continué à vivre en Jean-Baptiste. Et on peut évidemment se poser la question de savoir s'il n'aurait pas tenté de tuer cet enfant-là qui ne cesse de hurler et d'être en souffrance.
Quel est votre regard, vous, en tant qu'avocate, enfin, votre regard après coup, avec une vue historique, parce que vous n'y avez pas participé, évidemment, à l'affaire Ranucci. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'avocate, vous ?
Alors sur les faits en eux-mêmes, je n'ai pas forcément envie de revenir dessus parce que moi je ne connais pas le dossier en soi.
Pas de problème.
Donc je pense que ce serait un petit peu compliqué de pouvoir se prononcer là-dessus. Bon, on connaît de toute façon évidemment toute la polémique qu'il y a eu autour du livre de Gilles Perrault, mais il semble quand même qu'au bout de 3 demandes de révision, elles n'ont pas abouti avec satisfaction en tout cas, donc on peut imaginer, et au regard de toute façon de la justice, Christian Ranucci a été reconnu coupable. La difficulté, c'est que et comme je le disais au début de mon intervention, c'est que Christian Ranucci a servi de mythe de l'erreur judiciaire, donc que ce soit le premier tremplin par le livre, au travers du livre de Gilles Perrault, et ensuite ça n'a été en fait que ce tremplin à l'abolition de la peine de mort. Je vois cette affaire de cet œil-là,
bien
au
sûr.
Travers de ces, oui. De ces victimes.
Bien sûr. Je vous remercie, Aurélie Joly. Je rappelle le titre de votre livre, écrit avec votre confrère Frédéric David, qui vient de paraître aux éditions Max Milo. Le titre, c'est « La malédiction du pullover rouge ». Bravo, parce que tout est dit aussi dans le titre. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.